Bonsoir, vous êtes sur Radio Panique 105.4. Nous allons écouter un document qui s'appelle L'Enfer de Marcinelle, un peu dans le cadre de cette semaine où on vous propose de se commémorer la catastrophe du charbonnage du bois du Casier à Marcinelle qui a fait plusieurs centaines de victimes le 8 août 1956. Pour en parler, on a avec nous au téléphone Robert Scarpa, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on a entendu plus tôt dans la journée, les auditeurs pourront le retrouver sur radiopanique.org, la possibilité de réécouter le document, une dramatique radio sur la perception, en fait, d'une famille de mineurs de la perte de leur papa, de leur travailleur. Et cette fois-ci, on va pouvoir écouter dans quelques instants un autre document, L'Enfer de Marcinelle, qui donne la parole là à deux intellectuels en lutte. Qui sont ces deux hommes et quel est leur message?
Alors le premier, c'est Gastone Lodolo. En fait, c'est un mineur italien qui a travaillé dans la région de Charleroi, et notamment à Marcinelle, et qui a été le seul travailleur étranger italien à avoir été expulsé de Belgique pour son activité syndicale. En fait, il faisait des réunions régulières avec les mineurs pour expliquer que la sécurité dans les mines n'était pas à la hauteur de ce qui était normalement attendu pour un travailleur. Et donc il essayait de conscientiser les travailleurs étrangers, ce qui a vraiment déplu à l'État belge. Et donc ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il a été expulsé légalement. Et la raison pour laquelle il était expulsé, officiellement, c'est parce qu'il nuisait à l'économie du pays.
Une citation d'un tribunal qui condamnait en fait les dirigeants du Puy du Mani en 53, trois ans auparavant, nous disait « Les dirigeants du Mani se sont laissés hypnotiser par la production au détriment de la sécurité des ouvriers. Le charbonnage du Mani travaillait dans des conditions qui constituaient un défi aux règles à la prudence la plus élémentaire. » L'économie, quelle que soit son importance pour le bien général, ne peut prétendre étouffer les autres valeurs, la vie étant le plus grand bien de tous les biens et devant être prolongée jusqu'aux limites les plus extrêmes. C'est la parole d'un tribunal de l'époque et malgré tout, on n'écoute pas dans le monde capitaliste d'extraction la fin en fait de la puissance des mines en Europe de l'Ouest. Alors vous donnez aussi Robert Scarpa dans ce documentaire que vous réalisez la parole à un militant belge. Qui est-il?
Alors Jean Van Lierde, né en 1926, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire dont on ne parle plus beaucoup malheureusement. Il a été résistant en 1942. Pendant la guerre, il a aidé à l'indépendance de l'Algérie, il a soutenu Lumumba pour l'indépendance du Congo, il a été fondateur du CRISP, donc c'est quelqu'un d'important, et ça a été aussi le premier objecteur de conscience. Donc c'est lui qui, après la guerre, a refusé de faire son service militaire. À l'époque, l'objection de conscience n'existait pas, et donc on l'a mis en prison. Donc il a accepté pendant 15 mois... d'être en prison. Et puis après 15 mois, on lui a demandé « Bon, ben maintenant, vous allez faire votre service militaire ?» Il a répondu « Non ». Et donc, la justice militaire se demandait quoi faire. Eh bien, on l'a forcé, on l'a envoyé en travail forcé dans la mine. Et c'est dans la mine de Marcinelle, en 1952, qu'on l'a obligé à aller travailler.
Erreur funeste. Il allait s'exprimer par rapport à cette expérience.
Voilà. Donc, c'est vrai que pour les autorités belges, c'était pas vraiment un très bon choix, parce que après il a évidemment fait tout un travail de conscientisation des mineurs, et donc il a été considéré comme un agitateur. Et donc, on a essayé plusieurs fois de l'expulser de la mine. Hein, les patrons essayaient de l'expulser, mais les syndicats étaient là pour le défendre. Et bon, finalement, ils ont réussi à l'expulser, mais juste après sa sortie ou son expulsion, bien, il a écrit un petit pamphlet d'une trentaine de pages qui s'appelle « 6 mois dans l'enfer d'une mine belge ». Et c'était prémonitoire parce que c'était vraiment à Marcinelle même, là où il y aura la catastrophe quelques années après, qu'il dénonçait les conditions de travail qui étaient à la fois inhumaines et les conditions de sécurité qui n'étaient pas à la hauteur même de la loi.
Combien de temps avant la catastrophe est-ce qu'il se situait là-bas, Jean Van Eert?
Eh bien, c'était en 52, donc 4 ans avant.
4 ans avant, oui. Alors, c'est une parole qui est assez forte. On dirait presque que le syndicaliste italien défend le principe de la vie humaine à respecter dans la mine. Et Jean Van Eert, lui, il en fait un témoignage qui est assez poignant, mais qui est écrit à la première personne. Réellement, il parle de son expérience et ça n'est qu'après qu'il se lâche. On invite les auditeurs à rester à l'antenne pour écouter l'ensemble du documentaire. Pourquoi remettre ce texte, ces deux paroles aujourd'hui, Robert Scarpa? Qu'est-ce qu'elle vous dit aujourd'hui Puisqu'on n'a plus vraiment cette industrie lourde, à part ceux qui s'occupent de notre acier, ceux qui s'occupent de nos travaux publics, mais quelque chose d'aussi dense dans la domination économique, est-ce que ça existe encore maintenant? Et pourquoi, malgré tout, ce texte, il peut nous inspirer de nos points de vue?
Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense qu'aujourd'hui encore, l'exploitation économique des plus faibles est très présente, qu'elle prend d'autres formes, mais qu'elle est toujours aussi importante. Et là, donc, j'ai essayé aussi de montrer, en utilisant les publicités, la propagande officielle de l'État belge concernant le travail de la mine, de montrer l'écart qu'il y avait entre la réalité du travail décrite par Jean Van Eert et cette espèce de mineur idéal qui n'existait pas, évidemment, décrite par la propagande. Et la deuxième raison, c'est que il y avait déjà à l'époque une surexploitation de l'étranger qui n'était pas préparé à travailler dans ces conditions, qui n'était pas, qui normalement aurait dû recevoir une formation mais ne la recevait pas. Il y avait aussi qui est dénoncé l'utilisation des subsides de l'État au profit des actionnaires et non pas pour la sécurité, alors que c'est à cela que devait servir l'argent de l'État. Et donc qu'il y a aussi une surexploitation des étrangers, comme aujourd'hui.
On entend un peu une coalition des pouvoirs publics et du patronat aussi, derrière la nécessité de résister de Gaston Elodolo et de Jean Van Eert. On entend que l'État donne raison à leur patron au détriment de la vie de leurs camarades ouvriers.
Voilà, donc il y avait juste après la guerre ce qu'on appelle la bataille du charbon. La Belgique est un des pays, des rares pays européens qui n'a pas été, je dirais, saccagé par les bombardements, etc. Et la Belgique était un des pays les plus riches au monde. Et donc il était en avance par rapport à des tas de pays qui avaient été détruits par la guerre. Et donc le gouvernement d'après-guerre s'est lancé dans ce que Achille Van Acker, le ministre de l'époque, a appelé la bataille du charbon qu'il fallait à tout prix gagner pour alimenter la sidérurgie, fabriquer de l'acier, etc., exporter et rendre la Belgique prospère. Et donc cela s'est fait avec l'aide de migrations qui venaient surtout d'Italie. Donc il y a eu un pacte entre l'État italien qui était très pauvre, qui ne savait pas quoi faire de tous ces pauvres et qui a poussé les Italiens à émigrer parce qu'il n'y avait pas de travail pour eux. Et donc on entendra aussi des témoignages concernant cet aspect-là. Et donc c'est un peu ce qui se passe aussi aujourd'hui, dans une autre dimension, avec les pays africains, notamment, qui délaissent leur population, qui n'ont pas de travail pour eux, et qui les laissent partir, ou les encouragent même à partir, pour se débarrasser aussi des gens qui pourraient qui pourrait contester aussi les pouvoirs en place.
Ce qu'on va entendre ici, c'est une parole quand même rare, c'est la parole des concernés, de ceux qui ont été travailler et ont fait l'expérience, pour Jean Van Eert, c'est 6 mois, je pense, pour Gaston Elodolo, je ne sais pas la
durée. Il est resté plusieurs années, il a travaillé pendant plusieurs années, c'était un travailleur exemplaire, paraît-il, mais il a quand même été expulsé.
Donc c'est bien la voix des dominés et d'une conscience sociale qui sort. Est-ce que c'est aussi le fond de l'époque où on ne peut pas donner une voix autonome aux ouvriers parce qu'on a peur du communisme, parce qu'on a peur de l'amélioration de ces conditions de vie qui auraient été un obstacle au capitalisme flamboyant d'après-guerre?
Oui, bien sûr. Bon, ben, je crois qu'on ne va pas réécrire ou commenter, je dirais, trop longtemps la guerre. Mais bon, il est clair que la guerre, c'était pas seulement la guerre contre le nazisme. Ça a été, si les Américains sont venus en Europe, c'est aussi pour combattre le communisme qui risquait de s'implanter dans toute l'Europe occidentale. La preuve, c'est que au moment de à la fin de la guerre, quand les Allemands ont été vaincus, ben les différents partis, les différentes armées ont dit bon ben maintenant on va aller combattre le fascisme de Franco et bouter Franco dehors, qui était évidemment un gouvernement antidémocratique, et les Américains ont refusé. Mm-hmm. Donc c'était bien la preuve que Winston Churchill aussi a attaqué les communistes grecs qui avaient pourtant combattu les nazis, et il a tout fait pour les faire disparaître. Et donc l'armée anglaise et les alliés ont combattu les résistants grecs.
C'est donc la période où la Belgique devient ce qu'on appelle un pays du stay behind, c'est-à-dire où on encourage la gestion de l'intérieur à étouffer toute contestation de type socialiste forte ou communiste.
Oui, bien sûr. Et donc ça, c'était, je dirais, le mot d'ordre dans toute l'Europe occidentale. Hein. Et je pense que les années 60-70 continueront à être organisées ou être gérées par les États avec la CIA derrière de la même manière.
Alors ici, Jean Van Liert continue à avoir une pensée politique en Belgique. Je ne sais pas si Gaston et Lodol restent dans le champ sociopolitique de la Belgique. Mais leur message, est-ce que vous avez été sensible à une partie de leur message qui, elle, était en dehors de cette guerre capitalisme et communiste en Europe et quelque chose d'un peu... d'une leçon de vie, je veux dire, pour nous, intellectuels, qui se posons ces questions, ou pour aussi la classe ouvrière, de comment, quelle résilience pouvoir avoir dans un monde aussi dominé sur les corps des ouvriers que ce n'était le cas dans les charbonnages en Belgique.
Mmh. Alors, concernant Gaston et Lodolo, il a été expulsé de Belgique, il n'a jamais pu revenir. Et donc, il était sur la liste noire en Italie. Et donc, là-bas en Italie, il n'a quasiment pas pu retrouver du travail, sauf des petits travaux dans les champs, etc. Donc, sa vie a été cassée, sa vie et celle de sa famille. Quant à Van Liert, moi, je dirais que c'est quelqu'un d'important, parce que c'est quelqu'un qui, à partir d'une conscience... assez simple, je ne veux pas tuer et je veux la liberté de l'homme et du plus pauvre, eh bien, a travaillé toute sa vie dans cette direction-là. Et son travail vis-à-vis de la guerre au Vietnam, la guerre de libération en Algérie, l'indépendance du Congo, etc., tout ça a été, je dirais, une ligne droite, et je pense qu'on peut prendre ça comme exemple pour aujourd'hui et montrer qu'on peut aussi articuler sa vie, construire sa vie à partir d'une idée généreuse et d'une volonté de justice dans le monde. Je pense qu'il faut toujours qu'il y ait des hommes comme ça et que nous devons prendre exemple sur eux, même si de temps en temps on peut flancher.
Eh bien, merci beaucoup Robert Scarpa. On va entendre ce document, L'Enfer de Marcinelle, avec les messages de ces deux hommes et puis aussi le message de votre équipe de réalisation documentaire de le monter comme ça, de nous le présenter, de nous le restituer. Merci beaucoup. Et pour information aux auditeurs, si vous voulez réécouter l'ensemble de ces deux pièces documentaires autour de la catastrophe du bois du Quasi à Marcinelle le 8 août 56, elles seront disponibles en podcast sur le site de Radio Panique. Et n'hésitez pas aussi à en parler et à établir la réflexion autour de vous. Merci pour cette page historique et cette page sociale, Robert Scarpa.
Oui, merci à vous pour donner l'occasion aussi à ces événements de rester actuels et de pouvoir être diffusés.
Voilà, bonne écoute à tous. Merci.
Merci, au revoir.